des primaires américaines.
Encore ?
Au Pakistan troublé.
De l'initiative Vache à lait. Au chocolat interstellaire.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de Carrément Méchant. Nous sommes le 4 mai 2016, vous écoutez une magnifique émission dédiée à l'actualité suisse et internationale, et avec moi, comme toujours, Émilie.
Oui, bonsoir.
Alors voilà, on va
comment
débuter
vas-tu,
l'actualité. Je vais bien, écoute, tout va bien, on est début mai, le printemps est bien lancé. C'est sympa. Moi, je suis heureux, j'espère que tu vas bien aussi.
Oui, alors je suis assez heureuse aussi, bon, c'est un peu les examens qui commencent, mais ça va.
Oh, c'est vrai, j'ai oublié cette vie étudiante qui reprendra pour moi que dans quelques mois.
Le mec qui a fini l'uni depuis une année.
Exactement. Mais en attendant, on retourne sur des bancs que tu connais bien. C'est les bancs du Pakistan. Tu nous en parles régulièrement. Et il s'est encore passé quelque chose dans ce pays.
Voilà. Alors en fait, il se passe quand même relativement souvent des choses au Pakistan.
C'est un grand pays.
Alors c'est un grand pays, c'est vrai. C'est un pays très peuplé. Et j'ai un peu honte parce que j'y ai jamais été, mais j'aime bien en parler de toute façon. Et j'espère que, comme vous êtes des auditeurs très studieux, vous vous rappelez exactement de ce que je vous avais raconté la semaine passée, n'est-ce pas, Yann ?
La semaine passée, je ne crois pas. Le mois dernier, très certainement.
Passé. Voilà.
Voilà.
Oui, mais tu vois, c'est que le temps passe tellement vite. Et donc, la dernière fois, je vous avais parlé des suites de l'attentat de Lahore, donc qui est la capitale du Punjab au Pakistan, à la suite de laquelle l'armée, qui a une fâcheuse tendance à, disons, piétiner joyeusement les processus démocratiques au Pakistan, a encore fait des siennes et a décidé de simplement genre, prendre en charge la sécurité du Punjab. Ce serait un peu l'équivalent de imaginer, dans notre petit contexte helvétique, si l'armée de notre beau pays tout à coup décidait que la police lausannoise n'avait plus rien à faire dans les rues de Lausanne et prenait en charge toute la sécurité du canton de Vaud, et ce, sans demander son avis au Conseil d'État. C'est un petit peu cavalier. Mais enfin bref, faut pas qu'il sente, ça se passe souvent comme ça. Et moi, je voulais vous donner une petite update sur ce que l'armée avait fait, en fait, quelques semaines après ces événements, de quelle façon ils avaient, attaqué le problème du terrorisme et des militants extrémistes dans la région. Parce que c'était leur justification. Ils disaient « Ah, mais vous savez pas comment gérer ces terroristes. Regardez, ils font exploser des pauvres gens qui fêtent Pâques dans un parc d'attractions. Donc nous, on arrive et on va régler ça. » Alors, après cet attentat, le premier suspect qui avait été identifié, en fait, c'était justement un jeune Punjabi qui venait d'un village au sud de la province. Mais par la suite, il s'est avéré que ce n'était pas du tout lui, puisque quelques jours plus tard, les talibans pakistanais, qu'on appelle le groupe TTP, a publié une vidéo dans laquelle il revendiquait cet attentat. Oups ! Du coup, la raison de l'armée d'envahir la province devenait tout à coup un petit peu foireuse, étant donné que l'armée était déjà en charge de la sécurité dans les zones tribales dans lesquelles les talibans s'amusent et n'en font qu'à leur tête. Du coup, ça la foutait un peu mal. N'empêche que l'armée ne va jamais se remettre en cause. Et ils ont quand même, dans les jours et les semaines qui ont suivi l'attentat, arrêté pas moins de 5000 personnes dans des opérations qui ont fait 5 morts. Alors bien sûr, 5 morts comparés aux 170 qu'il y a eu pendant l'attentat, c'est pas grand-chose, mais n'empêche que quand on se dit qu'ils étaient là pour résoudre le problème de la violence extrémiste, ça le fait pas trop de laisser des cadavres dans son sillage. Alors, peut-être que les responsables de cet attentat n'étaient pas du tout dans la province, mais on s'en fout. Donc, en plus des 5000 arrestations, l'armée a engagé toute une opération au sud de la province pour arrêter en fait un groupe de criminels qui sévissaient dans la région et qui ont été vraiment prouvés plusieurs fois de ne pas avoir aucun lien avec des militants extrémistes. C'est-à-dire, bien sûr, c'était des criminels, c'est des petites frappes, tout ce que vous voulez, mais ils n'étaient absolument pas liés au problème des talibans ou des terroristes. Et je vous promets qu'au Pakistan, c'est plutôt rare ce genre de choses. Mais bon, l'armée s'en fiche un peu. Et ils ont lancé donc une énorme opération dans la région. Et ils ont notamment mobilisé 9 bataillons pour sécuriser des autoroutes à côté de la région dans laquelle ils avaient arrêté ce groupe criminel. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces autoroutes, elles font partie d'un projet d'investissement économique de la Chine au Pakistan. Et là, tout à coup, on commence à comprendre pourquoi l'armée avait tellement à cœur de prendre contrôle du Punjab. Le CPEC, pour China-Pakistan Economic Corridor, est un programme en fait, d'investissement chinois au Pakistan qui se compte à plusieurs milliards de dollars d'investissement et qui, pour la Chine, surtout lui permettrait d'avoir accès à un port, le port de Gandhar au Pakistan, dans l'océan Indien, ce qu'elle n'a pas pour l'instant. Et quand on réfléchit un tout petit peu en termes géopolitiques, on se rend compte que la Chine a très très envie d'avoir une base sûre au Pakistan. Alors du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'armée a utilisé l'attentat de Lahore comme prétexte pour prendre contrôle de la sécurité du Punjab, et tout ça pour aller protéger les ingénieurs chinois qui construisaient ces autoroutes, de leur dédier 9 bataillons rien qu'à eux, alors qu'il y a des pauvres enfants qui se font exploser dans un parc d'attractions, hein, et tout ça pour pouvoir recevoir un peu de pognon dans les poches à la fin. Bref, l'être humain est toujours pareil. Donc voilà.
C'est la conclusion de beaucoup d'infos, généralement.
Oui, alors bien sûr, mais en l'occurrence, l'appât du gain transcende quand même toutes les dynamiques politiques, même les plus extrêmes qu'ils soient. Mmh. Alors voilà, Yann, tu vas nous ramener dans des eaux peut-être un peu plus... enfin, j'allais dire plus calmes, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment qualifier les primaires américaines de calmes.
En tout cas, tu parlais d'appât du gain, c'est bien, on va continuer dans la même logique finalement, surtout concernant au moins un des protagonistes que je vais évoquer tout de suite. Le grand jeu des primaires américaines continue et ma couverture de ce spectacle consternant également. Pour commencer, un petit point chiffre. Côté républicain, le guignol de l'info Donald Trump mène toujours avec 956 délégués sur les 1237 nécessaires et est donné comme vainqueur potentiel s'il continue sur sa lancée. Autrement dit, sauf accident industriel ou manigance des huiles du parti, la nomination est à portée de mimine pour le visqueux Donald. Oui, visqueux, exactement. Derrière lui, Ted Cruz vient de nous faire ce qu'on appelle communément une Kasich, c'est-à-dire continuer de faire campagne, quand bien même l'ancestrale science des mathématiques est désormais contre lui. En effet, à 546 délégués, il ne peut plus gagner. C'est trop tard. Il n'y a plus assez d'États où faire campagne pour gagner à la loyale. Enfin, notons que John Kasich, justement, se traîne toujours derrière la chaise vide de Marco Rubio. Fantastique. Mais pourquoi diable nos deux lurons délurés, Cruz et Kasich, ne décident-ils pas d'abandonner la course? Eh ben, purement dans l'espoir qu'ils draineront suffisamment de délégués pour empêcher Trump d'atteindre les 1237, même si cet objectif apparaît jour après jour toujours plus illusoire. Reste que, visiblement, ça semble une raison suffisante pour continuer de jeter des centaines de milliers de dollars dans leurs campagnes respectives. Côté démocrate, niveau chiffres, non seulement Hillary Clinton a gagné quelques super délégués supplémentaires, mais en plus, selon une simulation du New York Times, il faudrait qu'elle fasse moins de 35% de voix en moyenne dans les États restants pour qu'elle perde. Moins de 35%. Une situation improbable, très improbable, impossible mais par politesse envers les fans de Bernie Sanders pudiquement baptisés d'improbable, à vous de voir. En tout cas, le bon Bernie a décidé de se séparer de centaines de collaborateurs dans différents états, arguant que cette mesure est uniquement liée à la progression de l'élection. Je cite « On n'a plus besoin de gens dans le Connecticut, cette élection est terminée. Nous n'en avons pas non plus besoin dans le Maryland. » Ce qui signifie supprimer une partie des postes. Ce que nous faisons, c'est concentrer nos ressources dans les 14 états restants. Quand bien même cette explication fait sens, ça reste le signe du début de la fin pour la campagne Sanders qui promet tout de même de continuer jusqu'à la convention du 25 au 28 juillet à Philadelphie. Probablement plus pour continuer d'être le caillou gauchiste dans la botte centriste d'Hillary plutôt que pour tenter de remporter la nomination. Dernier point d'importance pour ce petit résumé des points forts de la campagne républicaine. Ted Cruz a annoncé l'autre moitié de son ticket, la personne qui concourra avec lui pour l'élection présidentielle de novembre, à ses côtés, alors que Ted Cruz n'est pas en tête, et même mathématiquement hors d'état d'être nominé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et ce n'est pas tout, l'heureuse récipiendaire de cet emploi ô combien fictif n'est autre que Carly Fiorina, l'angoissante ex-patronne de Hewlett-Packard et ex-candidate à la même nomination républicaine que Ted. Et j'aimerais indiquer à celles et ceux qui n'auraient jamais vu Ted Cruz et Carly Fiorina en action qu'ensemble, ils forment le ticket le plus flippant du monde. Pas forcément au niveau politique, vous avez bien le droit d'être un républicain borderline Tea Party et tomber d'accord avec toutes les propositions délirantes qui peuvent sortir de leur bec, mais physiquement, on dirait juste un gros reboot politique des Thénardier. Bref, pour ce mois-ci, c'est tout. Je vous referai un petit point dans un petit mois, évidemment.
Bon, c'est déjà pas mal, je
oui.
trouve.
Hein. Ouais, voilà, il y avait des choses à dire. Et,
Le coup de Carly Fiorina, c'est quand même incroyable parce que ça...
Ça sort de nulle part.
Oui, ça sortait de nulle part et puis c'était tellement désespéré. Enfin, vraiment, genre, on dirait que le Ted Cruz était le seul être au monde à ne pas être au courant qu'il n'allait pas gagner. Ça faisait un peu de la peine, tu sais. T'avais envie de lui dire non, mais arrête d'essayer, enfin, c'est fini.
Et puis, stratégiquement, l'aile dure qui s'associe à l'aile dure, c'est pas très original, ça apporte pas grand-chose à son ticket.
Oui, alors l'originalité, c'était pas un des grands thèmes de cette campagne, mais...
La sienne, non, effectivement. Ah, dans la connerie, parfois, oui. Surtout si on parle de la campagne de Carly Fiorina, qui était allée parler d'avortement à des gamins en bas âge, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà.
C'est mignon, tout ça.
C'est délicieux.
Oui, alors du coup, moi, je vais continuer à vous parler de Donald Trump, en fait.
Ah bon
Si.
Il est partout, il se présente partout, ce mec-là. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce qui se passe, c'est que le magazine New Yorker, que vous lisez peut-être, qui est un très beau magazine, a publié il y a quelques jours un article intitulé « Une Europe de Donald Trump ?» avec pour illustration le visage bonhomique d'un politicien autrichien nommé Norbert Hofer.
Il est du FPE?
Alors...
Je pose la question!
Alors, pas si vite, non, Yann, pas si vite. Tu casses tous mes effets. Alors, nous allons ignorer Yann pour un instant.
Ce ne sera pas la première fois.
Et donc, bon, déjà, au-delà de la comparaison peu flatteuse entre Norbert Hofer et Donald Trump, il a beau être un assez affreux bonhomme, je suppose que personne n'a envie d'être comparé à cette espèce de, je sais pas, de plat de spaghettis crus qui se promène au-dessus d'un corps bronzé aux UV. Enfin bref. Donc, au-delà de la comparaison, c'est une opinion intéressante sur les résultats politiques en Europe de ces derniers mois. Donc, je parle évidemment de la montée des mouvements d'extrême droite dans divers pays de notre beau continent. Le dernier en date est justement ce monsieur Hofer, qui est le grand gagnant du premier tour des élections des élections présidentielles autrichiennes, et il m'a donné envie de vous informer un peu sur ce sujet. Parce que je suppose que, bien sûr, vous vous foutez pas mal des élections présidentielles autrichiennes en tant que soi, mais quand on vous dit que c'est le 5e ou le 6e pays qui se met à avoir un gouvernement d'extrême droite, eh bien, peut-être qu'il faut commencer à s'intéresser un peu à la politique, histoire de pouvoir voter dans son propre pays pour des gens qui ont un peu plus de choses dans le crâne. Alors, l'Autriche avait un contexte de l'élection présidentielle qui était chronologiquement et géographiquement au beau milieu de la crise des réfugiés. Ça peut vous donner un petit avant-goût sur qui est le parti victorieux, donc qui a tiré son épingle du jeu, hein. Allez Yann, tu devines quoi?
Le FPE?
Le FPE, et non, c'est pas les socialistes, ratés. Alors le FPE, c'est le Freiheitspartei Österreich, qui veut dire le parti de la liberté. Alors, beau programme, hein. Pour vous donner une petite idée à quoi le FPE ressemble, c'est la première fois depuis 1945 qu'il remporte des élections présidentielles. 1945, cette date bénie dans l'histoire de l'Autriche, qui finissait une période pas hyper glorieuse.
Je vois pas de quoi tu veux parler.
Alors, pour vous dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Autrichiens ont quand même voté pour un parti d'extrême droite. C'était un peu embarrassant à l'époque. Mais enfin, bref, ce n'est pas seulement la première fois que le FPE remporte les élections présidentielles depuis 71 ans. Dans la foulée, c'est également la première fois que les deux partis principaux d'Autriche, les sociodémocrates du SPE et le parti du peuple du ÖVP, c'est la première fois que ce n'est pas l'un de ces deux partis qui a remporté l'investiture. C'est vraiment, dans le paysage politique autrichien, c'est une révolution. Alors, donc, 71 ans, ça fait quand même relativement longtemps. Donc alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais le président autrichien, il a uniquement des fonctions honorifiques. » Certes, mais il a quand même deux ou trois super-pouvoirs dans sa poche. En plus de serrer les poignes des chefs d'État en visite, le président autrichien est chef des armées. il peut nommer le chancelier qui, lui, est en fait la personne. Donc, c'est l'Angela Merkel de l'Autriche, si vous voulez, qui a vraiment un pouvoir exécutif, disons, influent. Et il peut aussi dissoudre le Parlement en cas de besoin. Enfin, en cas de besoin, en cas d'envie. Alors, pour vous donner une idée sur M. Norbert Hofer, il a annoncé d'ores et déjà que, serait-il élu président, il n'allait pas hésiter à utiliser son pouvoir de dissolution du Parlement dans l'hypothèse où celui-ci serait en désaccord avec lui sur les questions des réfugiés. Quel charmant personnage. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu plus sur ce personnage haut en couleur qui a recueilli 36% des votes. Donc, 36% des votes, c'est vraiment un... Enfin, ça me fait un peu mal de dire, mais c'est vraiment un excellent résultat pour le FPE. Dans la mesure aussi, et vous pensez au fait que son premier opposant n'en a recueilli qu'environ 18%. Et les deux candidats qui sont sélectionnés pour le second tour, du coup, sont un candidat qui a eu 18% des votes et Norbert Hofer qui en a eu 36% et qui risque d'en recevoir, du coup, vachement plus. Qui sait, le 22 mai, sauf erreur, l'élection autrichienne. Donc, Monsieur Hofer est un ingénieur en aéronautique de 45 ans qui porte souvent un Glock, donc un pistolet personnel, sur lui pour se protéger contre les réfugiés. Et là, il faut avouer que la comparaison du New Yorker avec Donald Trump atteint son but. Donc, Monsieur Norbert Hofer a aussi un capital sympathie assez élevé, parce qu'au-delà de son agréable faciès de Monsieur Tout-le-Monde, il est partiellement paralysé après un accident de parapente qui lui a laissé une jambe raide, et du coup, il se déplace avec une canne. Donc, il a ce capital un peu de l'homme, non seulement de l'homme sportif et qui fait de la montagne comme tous les Autrichiens, mais qui, en plus, a quand même souffert et puis qui n'est pas un superman comme Barack Obama ou d'autres. Alors, pour vous dire aussi une petite idée sur ses opinions politiques, il a été félicité pour ses résultats par Geert Wilders des Pays-Bas et Marine Le Pen de notre charmant voisin de l'Hexagone, qui sont des gens dont on n'a pas forcément envie de recevoir les félicitations. Mais enfin bref, je suppose qu'il était assez content. Alors Monsieur Hofer a, disons, une ou deux propositions intéressantes pour l'éventualité dans laquelle il serait élu. Il voudrait en fait, un truc que je trouve vraiment incroyable, en Autriche on fête en avril ou en mai, je sais plus, on fête la fin en fait du régime nazi. Donc parce que vous vous souvenez que l'Autriche avait été annexée par l'Allemagne, etc. Et donc, en 1945, le régime nazi s'étant effondré, l'Autriche a été libérée. Et depuis, chaque année, en Autriche, on fête ce jour-là. Et ça s'appelle le jour de la joie, le Tag der Freude. Et il y a des concerts, il y a des animations, etc., etc. Alors, Monsieur Norbert Hofer, ce qu'il veut faire, une des premières choses qu'il veut faire, c'est abolir ces célébrations.
Mais oui.
Alors, c'est-à-dire qu'il n'essaye même pas de se distancier des comparaisons avec le national-socialisme, il les amène sur la table lui-même. Et vous savez quoi, le pire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il y a quelques années, lors d'une célébration d'investiture du parti, il s'était ramené, alors en costard-cravate, comme tout le monde, mais sur son costard, il avait accroché des petites fleurs bleues qui peuvent paraître très mignonnes et innocentes, mais en fait, ce genre de fleurs était vraiment un symbole des nationaux-socialistes, donc des nazis, qui portaient très souvent ces fleurs-là, je ne me rappelle plus de l'espèce, sur leur costume. Bref, c'est un charmant, charmant personnage qui risque d'être élu en tant que président autrichien en mai. Et puis, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après sa victoire, les politiques de l'Autriche ont déjà changé. Alors, bon, c'était des processus qui étaient déjà en cours pendant l'élection présidentielle. N'empêche que le lendemain de l'élection, l'Autriche a voté, en fait, le Parlement autrichien a voté sur une loi qui introduisait la possibilité d'un état d'urgence migratoire. Alors, c'est-à-dire que maintenant que cette loi a passé, si le président autrichien ou le Parlement veulent déclarer un état d'urgence migratoire qui voudrait à fermer toutes les frontières du pays, donc la fin du droit d'asile, une violation complète d'un certain nombre d'accords internationaux, etc., etc., et maintenant, c'est possible. Et puis, donc l'Autriche a aussi, dans, dans, dans cette hypothèse-là, a commencé des nouveaux travaux de construction d'une barrière à sa frontière avec l'Italie, ce qui a enragé non seulement le gouvernement italien, mais aussi le pape. Alors voilà, donc on se réjouit de voir ce qu'il se passera en Autriche, mais ce qui est sûr, c'est que même si Norbert Hofer n'a pas la coupe de cheveux délirante de Donald Trump, on risque d'assister à des politiques un peu similaires. Et ça, ça fait un peu peur.
Effectivement, c'est bien inquiétant. C'est bien parce qu'on va parler de politiques qui s'appliquent un petit peu au bol, cette fois-ci, hein, après des politiques intentionnelles qui font flipper des bonnes politiques qui sont appliquées de manière un petit peu aléatoire. Émilie, j'ai une question, j'ai une devinette pour toi, même, par rapport à ça.
Oui.
Combien, d'après toi, faut-il de députés pour supprimer la Hadopi en France ? La haute autorité Hadopi.
Je sais pas.
Eh ben, la réponse est 7. 7 députés.
C'est pas beaucoup.
Dans une assemblée nationale de 577 sièges.
Ouais, moi j'allais dire plutôt un chiffre dans les centaines alors.
577 sièges qui sont généralement vides donc.
Voilà, moi je suis pas très forte en maths, mais il me semble que 7 c'est pas là vraiment une majorité.
Non, effectivement. Alors tout d'abord, un mot d'explication. La Hadopi, c'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Le nom sonne bien, mais en pratique, c'est moins charmant. Voté en juin 2009 par la majorité UMP de l'épique époque Sarkozy, et ce sous l'ombrelle de sa ministre de la Culture, Christine, je suis tellement compétente que je crois qu'Open Office est ou contient un pare-feu Albanel, la loi Hadopi 1 a introduit le principe de riposte graduée, c'est-à-dire la coupure d'accès à Internet en cas de téléchargement illégal pris la main dans le sac. Je ne vais pas vous faire l'ensemble des critiques adressées à la loi, sinon pour vous dire qu'elle a été faite dans un grand contexte de méconnaissance de l'informatique en général et de la qualité déplorable de l'offre légale en particulier, ainsi qu'à la haute autorité, mal dirigée, coûteuse, opaque, maladroite. Je n'irai pas plus loin dans ces critiques, donc, parce que, voilà, il y en a tellement qu'on y serait encore demain. Là, dans l'histoire qui nous concerne, il faut expliquer que le vote, qui s'est tenu le 28 avril de cette année à 22h, avait pour objet une proposition de loi sur le statut des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes également. Autrement dit, savoir ce qui advient des entités administratives importantes telles que l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de sûreté nucléaire, la commission des infractions fiscales, la commission nationale de l'informatique et des libertés, celle de la sécurité des consommateurs, le conseil supérieur de l'audiovisuel, tout le monde le connaît, c'est le CSA, j'en passe, et des meilleurs. Et le législatif, pendant qu'on vote sur l'avenir de ces hautes autorités, il fait quoi ? Bah, il est pas là, dans 570 cas sur 577. 7 députés pour voter dessus. 7 personnes se sont dit qu'il serait nécessaire d'être là. Qu'est-ce qui sépare à ce stade la France d'être un pays qui vote ses lois à pile ou face ? Ils sont où les élus exactement, en train de se toucher dans les bureaux du Haut Conseil du Rien Branlage ? Vous dire à quel point c'est aléatoire, la majorité présidentielle a donc perdu sur la Hadopi qu'elle souhaitait maintenir. La majorité présidentielle. Dans majorité présidentielle, il y a majorité. Normalement, ils gagnent les votes parce qu'ils sont la majorité. Par manque de députés socialistes et à l'aide d'un soutien des Républicains, la Hadopi est en l'état en voie d'être supprimée grâce à un amendement écologiste voté à 4 députés pour et 3 contre. Même dans le conseil municipal de ma ville, il y a plus de gens qui votent et ils sont seulement une vingtaine en tout.
Et ça, c'est un scandale.
À partir de là, deux possibilités. Soit les députés français sont des gros cons, soit les députés français sont des gros cons. Je m'explique. Dans le premier cas, une interprétation caricaturale, les députés français sont des gros cons parce qu'ils ne viennent pas voter sur l'avenir de structures aussi importantes. C'est simpliste, ça ne prend pas en compte d'autres éléments, bref, cette explication n'est pas satisfaisante. Dans le second cas, de manière plus terre à terre, les députés sont des gros cons car ils laissent perdurer un circuit de création des textes de loi auxquels ils n'assistent pas eux-mêmes complètement. On y vote sur des amendements qui seront de toute façon consultés dans d'autres passages de la loi, dans la même chambre, puis encore une fois, ou même plusieurs fois, quand la loi partira au Sénat. Autrement dit, ces séances nocturnes existent, mais personne n'y va. Du coup, ça donne à la fois l'impression erronée qu'ils se fichent de l'avenir des hautes autorités et consorts, ainsi que l'impression totalement justifiée qu'ils ne font rien pour corriger un système dont ils vivent eux-mêmes les douloureuses absurdités, sans parler du gâchis financier qui en découle. Bref, amis élus de la République, avant d'aller créer des entités absurdes et dysfonctionnelles comme la Hadopi, occupez-vous d'abord de l'institution absurde et dysfonctionnelle que vous avez droit devant le nez, la 5ème République. Voilà, C'était un cri du cœur de ma part, parce que c'est vrai que les institutions françaises, parfois, et notamment sur la création des lois, c'est bien de la merde. Heureusement, on prend un petit aller simple de TGV Lyria en direction de la Suisse. Et en Suisse, on se lance dans de grands projets.
En Suisse, on fait des choses quand même un peu plus innocentes. Quand on ne fait pas de la politique, on essaye de conquérir le monde. Comme on vous avait déjà fait un épisode spécial sur comment la Suisse conquiert le monde l'année passée. Maintenant que nous avons conquéré le monde, nous lançons vers de plus vastes perspectives, c'est-à-dire l'espace. Alors la Suisse, ce pays aux priorités merveilleuses, a décidé d'envoyer dans l'espace... Non pas un satellite, non pas un astronaute, etc. On en a déjà envoyé un, c'est bien assez. Mais du chocolat. En effet, l'EPFL, le laboratoire spatial de l'EPFL, donc l'École Polytechnique de Lausanne, a décidé d'envoyer dans la Station Spatiale Internationale une boîte contenant 6 chocolats de marque. Grande contribution de la Suisse à la Station Spatiale Internationale. Bon, remarquez, on est déjà en train de travailler sur un autre projet... qui reflète tout autant les stéréotypes helvétiques, c'est un satellite nettoyeur nommé Clean Space One, donc qui sera un peu la putzfrau autour de la Station Spatiale Internationale et qui attrapera des déchets comme ça. Donc pour combattre les clichés en Suisse, on envoie des satellites pour nettoyer l'espace et ensuite on leur envoie des chocolats. Donc... Par contre, pour envoyer des chocolats dans l'espace, c'est toute une histoire et c'est pour ça qu'on en a entendu parler dans les médias. Alors, il faut qu'aucun matériel ne soit inflammable, il faut que la boîte ne contienne aucune image, aucun logo, puisque tout ce qui se passe dans l'espace est retransmis sur des dizaines de caméras et il ne faut surtout pas vouloir faire de la pub. Mais quel est l'intérêt de vouloir faire de la pub quand, au final, l'envoi lui-même est déjà une forme de pub pour le gouvernement suisse ? Enfin bref, je ne comprends pas tout. Enfin bref, il a fallu près de 6 mois pour faire décoller cette misérable boîte de genre 10 cm sur 3 dans l'espace pour rejoindre les astronautes. Et puis, grand moment de gloire de l'histoire helvétique, c'est un astronaute britannique, Tim Peake, qui a tweeté une photo de lui portant la fameuse boîte de chocolat. Ce qui est sûr, c'est que la Suisse sait comment s'y prendre pour conquérir le monde, et même d'autres galaxies.
Merci beaucoup. On va parler encore d'initiatives populaires, on va encore parler de votation. Rappelons que la Suisse vote le 5 juin sur plein d'objets que je vous avais détaillés le mois dernier. Souvenez-vous, vous pouvez vous adresser, vous pouvez vous retourner vers cet épisode si vous voulez en savoir plus sur différents objets que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Mais on a un sur lequel je vais revenir aujourd'hui. Je vous l'avais présenté donc en fin d'épisode du mois dernier sous le nom d'initiative populaire fédérale pour un financement équitable des transports. Et on va en reparler aujourd'hui, car il est grand temps de concentrer notre attention sur cet objet de vote en particulier. Il faut d'abord savoir que cette initiative se fait appeler Initiative Vachalet, par ses initiants, l'association d'automobilistes auto-suisse. Le nom Vachalet, selon moi, a deux utilités bien distinctes. Tout d'abord, il permet à Auto Suisse de cristalliser la bonne vieille colère anti-impôt borderline populiste, typique des partis et lobbies d'automobilistes. On est des vaches à lait, ouh, pas beau l'État fédéral qui récupère un impôt sur le trafic routier et le réinvestit dans différents secteurs, c'est pas bien, bande de méchants.
Mais en plus, il y a le mot vache, alors ça parle beaucoup aux sensibilités helvétiques, enfin, c'est important le langage dans ce genre de choses.
Tout à fait. Et aussi, c'est au milieu de cette colère que se trouve la deuxième raison de nos jours. Les initiatives populaires sont nombreuses, il faut se faire remarquer, sortir du lot, trouver le slogan choc, l'image qui frappe, les mots justes afin de retenir l'attention et de mobiliser l'électorat en sa faveur. Personne n'a envie d'être une vache à lait sur le principe, c'est désagréable, je ne suis un homme distingué finalement, ne manipulez pas mes piles de la sorte. Bref, l'initiative dite Vache à lait veut forcer l'État à n'utiliser les taxes relevées sur la circulation routière, c'est-à-dire les impôts sur les carburants et la vignette autoroute pour la plus grande partie de ce que ça représente, que exclusivement pour l'entretien des routes et rien d'autre. Ça ressemble pas mal à une grosse méconnaissance du concept de constituer un budget en fonction des besoins, mais bon, ils proposent bien ce qu'ils veulent, ils sont grands, majeurs, automobilistes et vaccinés après tout. Ce qui est amusant, c'est de voir le petit nombre de partis qui soutenaient cette initiative soudainement l'abandonner. La petite chance qu'avait l'initiative Vache à lait, quelque part entre l'excitation populiste et l'aléatoire causé par un taux de participation qui sera peut-être bas, est doublement écrasée par un premier sondage défavorable, 47% contre, 42% pour et 11% d'indécis, c'est un sondage GFS Berne, et par la défection de Luc Bartassa, du Parti démocrate chrétien à Genève, ainsi que de l'encouragement à voter non des nouveaux présidents de partis de droite et de centre-droit, à savoir la PLR Petra Gössi et le PDC Gerhard Pfister. L'association Auto-Suisse, par la voix de François Lona, a réagi d'une façon parfaitement typique venant d'un lobby. Il a dit, je cite, « Nous avons soutenu passablement de candidats. Monsieur Nantermo en est un. Monsieur Muller, ancien président de parti, en est un autre. Ce sont des gens qui ont accepté volontiers notre support, soit financier, soit sous la forme de sujets promotionnels, et qui maintenant se battent contre cette initiative. Où est la loyauté des politiques ?» Et là, je reprends la parole. Autrement dit, on vous a aidé aux élections et parfois même autrement dit, on vous a aidé aux élections et parfois même graissé la patte. Où est l'obéissance pour laquelle on a payé si cher ? Bah quoi ? On voulait cocufier le peuple en soudoyant les politiques et on s'aperçoit qu'on s'est fait contre-cocufier par les politiques tellement la demande est improbable. Mais pauvre choupinou, je verserai une larme sur mon oreiller en pensant à vous.
Il y a d'autres gens qui verseront des larmes sur leur oreiller. Mais pour une raison que je qualifierais personnellement et humblement de un peu plus valable, c'est les jeunes pères, en Suisse toujours, qui se sont vus faire un gros fuck dans la gueule. Je vous explique.
Et là, le podcast, il passe en explicite en 10 secondes.
Voilà, alors, j'assume tout à fait mes propos. Une initiative parlementaire avait été déposée en avril 2014 par un parlementaire, je ne sais même plus de quel parti il est, c'est égal, qui était jeune papa et puis qui voulait introduire un congé paternité de 14 jours payé. Alors, la Suisse est déjà une lanterne rouge en Europe, en tout cas sur ce sujet-là, puisque nous offrons actuellement un jour à nos jeunes pères. Puisque
c'est peu.
Un jour, c'est pardon ?
C'est peu.
Oui, c'est peu, pardon, j'ai cru que t'avais dit deux.
Non.
Mais en effet, c'est peu. Enfin, c'est même ridicule quand on sait tous les chambardements que ça implique d'avoir un enfant, surtout si c'est un premier-né. Et alors, bien sûr, les entreprises peuvent le faire de façon volontaire et certaines entreprises, bien sûr, offrent un congé paternité un peu plus conséquent. N'empêche que dans la Constitution suisse, on ne le fait pas, puisqu'on s'en fout, en fait, que les pères soient aussi impliqués dans l'éducation des enfants, puisque c'est après tout c'est des hommes et les hommes ça doit travailler, puisque les femmes seront forcément à la maison en train de s'occuper du charmant bambin. Donc, ça a été voté, c'était quand même relativement tendu, on a voté à 97 voix contre 95 abstentions, donc ne perdons pas complètement espoir en notre Parlement, peut-être que dans quelques années, nous pourrons avoir une loi qui fait un peu de sens pour l'égalité des sexes, etc., etc., mais enfin, restons pessimistes pour quelques instants, on est quand même en Suisse, le pays où le changement est quand même mal vu. Alors, parce que vous savez, ce n'était pas la première fois qu'on a essayé d'introduire un congé paternité au Parlement. Depuis les années 2000, il y a eu plus d'une douzaine d'interventions qui visaient à introduire un congé pareil, alors avec diverses durées et diverses réglementations autour, mais n'empêche qu'il y en a eu plus d'une douzième, et à chaque fois, ce sont, c'est ce qu'on appelle en Suisse les Neinsager, c'était toujours nine, pas moyen. Alors, bien sûr, un congé paternité, il faut que ça se finance, et forcément, c'est toujours une affaire de fric, on en parlait avant. Ce n'est pas qu'au Pakistan comme ça, mais aussi en Suisse, peut-être surtout en Suisse en fait. Alors, on financerait ce congé paternité par un prélèvement de salaire de 0,06%, ce qui voilà, n'est pas grand-chose, mais qui coûterait quand même à l'État, pour 14 jours, environ 200 millions de francs par an. Alors l'État, au lieu de dire « non mais c'est trop cher », l'État a rétorqué pour justifier son choix que la famille était une affaire privée dans laquelle l'État n'a pas à s'immiscer. Alors, c'est un peu hypocrite quand on sait que l'État, certes, n'a pas à s'immiscer dans la famille, mais on va quand même donner aux femmes un salaire en moyenne 18% inférieur à celui des hommes. Comme ça, elles restent dans la sphère privée de la famille et puis elles ne viennent pas trop nous embêter dans les commerces. Donc voilà, les pères vont continuer à avoir un jour de congé payé. Et les réactions après cette votation étaient forcément mitigées, sauf l'Union du travail suisse, qui est je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un syndicat, puisque c'est un syndicat qui défend en fait l'inverse de ce qu'un syndicat a été créé pour. Enfin bref, donc c'est le think tank des gros patrons. Donc il s'est déclaré soulagé par la décision du Conseil national en expliquant que un congé paternité aurait pénalisé la compétitivité de la Suisse et alourdi les charges salariales. Alors on aurait pu perdre de l'argent, figurez-vous, parce que c'est évident qu'un employé qui s'est levé 5 fois par nuit pour aller s'occuper de son nouveau-né est un bien meilleur travailleur qu'un papa qui est complètement détendu parce qu'il a pu passer un peu de temps avec son bon main. Et puis, enfin bref, au final, ce sera quand même toujours les femmes qui vont rester à la maison pour s'occuper des enfants. C'est pas demain la veille que nous aurons des jeunes pères à la maison dans notre beau pays. Et voilà, c'est tout pour moi sur cette note joyeuse et progressiste. Nous allons vous laisser partir avec la tête pleine de nouvelles informations et de nouvelles perspectives sur le monde. Et puis on vous retrouvera le mois prochain.
On vous retrouvera le 1er juin pour le prochain numéro de Carrément Méchant. Peut-être le dernier de la saison, qui sait, peut-être qu'on en fera un autre en juillet, on verra bien. En tout cas pour l'instant, on vous donne rendez-vous le 1er juin. Émilie, on te retrouve sur Twitter, @eroulet.
Oui, et toi-même, @inkshd.
C'est fantastique, l'émission, vous pouvez la télécharger, la podcaster sur radiokawa.com. Et d'ici le mois prochain, ben voilà, passez un excellent moment dans la vie à l'écoute de Radio Kawa. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, reposez-vous bien. Allez, ciao.
Ciao, bisous.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
Ah, le journalisme. Un métier passionnant et adoré des Français, C'est sûrement une branche accessible.
Eh bien non!
Pour devenir journaliste, la voie royale passe par des concours frabadingues qui vous demandent de tout, mais alors de tout retenir de l'actualité. Alors que vous prépariez ces foutus concours ou que vous bossiez votre culture générale, c'est à ça que sert le podcast Cette fois c'est la bonne. Toutes les deux semaines à peu près, moi, Benjamin, alias La Débauche, reviens sur des points d'actualité qui sont susceptibles de tomber, tout ça entrecoupé de bonnes zik. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et bonne chance! Retrouvez le podcast au minimum toutes les deux semaines sur Radio Kawa et sur tout attaché, cette fois c'est la bonne.fr.